C'est pas pour ça que nous ne sommes pas vibrants et sincères, mais ça fait aussi partie de notre foi d'avoir des moments d'exaltation, de grand partage, et puis des moments de repli sur soi, entre nous, sur les vérités essentielles qu'on a pu entendre aujourd'hui, ce matin, dans les différentes prières et dans les différentes interventions. Le message d'aujourd'hui va finalement un peu dans ce sens-là, dans ce que nous ressentons aujourd'hui. Vous savez que nous entamons depuis quelques mois, enfin nous avons commencé l'étude de l'Épître aux Romains. Et là nous en sommes au 8e chapitre. C'est comme il y a une émission sur Europe 1 qui s'appelle On de la traconte, je ne sais pas si vous connaissez, sur les crimes, c'est horrible et tout. Quand j'écoute ça dans ma voiture, à chaque page de pub, le gars, il revient. Donc je vous raconte l'histoire de ceci, puis à chaque fois, il rajoute une étape de ce qu'il a raconté précédemment, jusqu'à ce qu'on connaisse enfin le nom du criminel. Donc là, je fais un peu on de la traconte, je refais un résumé très rapide pour qu'on ne soit pas totalement perdu. Mais je vais le faire sous une forme un peu particulière, un peu plus amusante. Donc, je vais comparer l'Épître aux Romains au Tour de France. D'accord? Avec toutes les différents types d'étapes qu'il y a. Donc, je rappelle simplement que l'Épître aux Romains, c'est la lettre que Paul écrit à l'église de Rome où sont mélangés les juifs et les non-juifs et qui donc ont un peu du mal à cohabiter. Et il va profiter de cette lettre pour mettre en place totalement la parole de Dieu, tout ce que Dieu annonce, en fait, de remettre l'évangile au centre du village, si je puis dire, et redire toutes les vérités de notre foi. Et donc, si l'Épître aux Romains était un tour de France, on pourrait dire que le chapitre 8, celui qu'on va avoir maintenant, c'est le col ultime, c'est-à-dire c'est le col de première catégorie. Là, on est vraiment au sommet des grosses difficultés, mais c'est aussi l'apothéose de la course. Après 8 chapitres, on va enfin savoir qui gagne la course. Parce qu'il faut dire que les chapitres précédents, ils ont plutôt mis la tête dans le sac. Ça n'a pas été facile, parce qu'il a décrit quand même notre condition humaine d'une façon un peu difficile. Donc, en résumé, donc les étapes précédentes, l'étape numéro 1, c'était le prologue. Le prologue, c'est toujours une morne pleine. C'est une course qui n'ont pas. Il ne se passe pas grand-grand-chose. Et on apprend dans cette course-là que tous les hommes, juifs ou non, sont coupables devant Dieu. Depuis le choix d'Adam et Ève de se séparer de la relation avec lui. Nous sommes tous coupables. Dans l'étape 2, après c'est l'étape de sprint, si on peut dire, chacun essaie de sortir du peloton par sa propre force. Il essaie de gagner lui-même sa course, d'être le premier, en respectant plus ou moins les règles, les règlements, la loi, donc plus d'entraînement, plus d'efforts. Mais à l'arrivée, personne n'arrive vraiment à gagner de façon nette, parce que la loi n'est que le moyen d'identifier le péché, c'était ce qu'on avait vu. La loi ne sauve pas. Même Abraham n'a pas été sauvé par la circoncision, qui était symbole de la loi, mais par sa foi. Juifs et non-juifs ne sont sauvés que par la foi et pas par les œuvres. Et la troisième étape, on en arrive là. Donc, oui, ça a été très très rapide, mon résumé. On est devant la grande étape de montagne. Une fois qu'on a vu ça, il faut affronter nos jours et nos nuits. Et là, c'est-à-dire escalader chaque jour. Les chemins escarpés de notre quotidien. Dans le cyclisme, par exemple, il y a la montagne du Galibier. On dit que c'est le juge de paix. Celui qui franchit le Galibier, il gagne le tour, parce que ce sont les meilleurs qui y arrivent. Et nous, on doit escalader cette montagne de nos jours et de nos nuits par la foi. C'est ce que nous ont appris les premiers chapitres de Romains. Cette foi qui doit permettre aux juifs et aux non-juifs de vivre une nouvelle existence en Jésus-Christ. Alors cette troisième étape, cette grosse étape de montagne, l'étape suprême, elle a débuté avec le chapitre 7, dont nous a parlé Manu il y a 15 jours. Alors c'était une descente infernale en fait, parce qu'au pied de cette montagne, dès qu'on essaie de monter les premiers lacets, en fait on les redescend aussi sec en marche arrière, parce qu'on n'a pas la force de monter nous-mêmes cette montagne. Juste avec notre propre valeur. Du coup, on va essayer plein de choses, le dopage, les moteurs cachés dans les rayons, s'accrocher aux voitures des commissaires, mais on ne monte pas longtemps. On a beau faire l'effort de vouloir monter cette montagne, je vais y arriver, je me suis entraîné pour, je suis un sacré gars, c'est bon. Eh bien, on n'y arrive pas, on n'y arrive jamais, et Paul faisait ce constat terrible. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux faire. Le chapitre 7, c'est le cri de tout le monde, entre nous ici, qu'on a tous poussé à un moment ou l'autre et qu'on continue de pousser, c'est au secours, qui vient m'aider à appuyer sur les pédales? Parce que seul, je n'y arrive pas. Malgré tout mon entraînement, malgré toute ma bonne volonté, mais malgré toutes les ruses, voire les tricheries que je mets en place, un moment ou l'autre, je retombe et je reviens en bas de la montagne. Alors, c'est à ce moment-là que donc, quand on se dit ça, Paul, quand il dit ça, c'est qu'il est déjà avec Jésus, il est déjà chrétien, donc il est déjà totalement dans la foi. Que des gens disent ça en n'étant pas dans la foi, on peut les comprendre. Mais ce que nous expliquait Manu, c'est que ce qui est terrible, c'est de se rendre compte de notre inappétence, de notre incapacité à progresser, alors qu'on est avec Jésus, qu'on est sauvé, et qu'on est donc normalement en capacité de pouvoir réussir à progresser. Donc face à ça, il y a deux réactions possibles. C'est sans dire, bon, bah écoutez, finalement, on peut être chrétien et puis avoir tel défaut, telle incapacité, c'est comme ça, Dieu comprendra, on ne peut pas faire autrement. Ou bien, finalement, ce n'est pas de ma faute, je suis comme ça, je suis né comme ça, c'est Dieu qui m'a fait ainsi, à lui d'assumer le fait que je ne sois pas capable d'aller plus loin, finalement. Et en fait, les deux réactions amènent à la même conclusion. Oui, je crois en Dieu, je suis sauvé, mais dans tel domaine de ma vie, l'Évangile ne peut rien pour moi. Et on peut comprendre qu'on ait cette réaction-là. Mais c'est encore une erreur qui revient au premier chapitre des Romains, c'est que là encore, on donne la priorité à la loi. Et la loi, c'est la religion. Or, l'Évangile n'est pas une religion. Ce à quoi l'on croit, ce n'est pas une religion, avec son catalogue de principes, d'obligations, de mesures. L'Évangile ne nous invite pas à faire tous nos efforts pour changer. Il nous exhorte à devenir progressivement ce que nous sommes déjà aux yeux de Dieu par notre foi en lui. La démarche est totalement inversée. Nous sommes déjà saints par le fait que nous sommes mis dans les mains de Dieu, que nous avons répondu à son appel. Et à ce moment-là, nous avons déjà en nous toutes les capacités à changer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Évangile nous apprend à ne plus être un homme ou une femme qui lutte parce que nous sommes livrés à nous-mêmes, mais être dans la paix d'un homme ou d'une femme qui avance dans la dépendance de Dieu. C'est-à-dire, tout le rapport cause-conséquence est inversé. Nous sommes déjà, et Paul le dit plus loin, nous sommes déjà gagnants. Il faut juste accepter que Dieu rentre avec nous dans la partie, dans notre course de vélo, pour que les choses puissent se mettre en place. Alors, on peut se demander, mais qui va nous aider à être dépendants de Dieu, à appuyer sur des pédales, si je puis dire? Et c'est ça que nous, dont nous parle le chapitre 8. Et c'est en ça que, au-delà du fait que c'est romain, que c'est une étude, c'est un chapitre absolument fondamental, parce qu'il va concerner chacun d'entre nous de façon extrêmement réelle, extrêmement précise, extrêmement claire. Alors, je ne vous le lis pas, parce qu'il est assez ardu à verset par verset. Je vais en prendre quelques-uns que je vais piocher, mais ce que je vous raconte, c'est là, voilà, c'est là un peu c'est la synthèse des idées pour que ça soit un peu moins obscur pour vous. Le chapitre 8 va nous donner la clé de tout ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire, nous sommes tous coupables, par Dieu nous sommes sauvés. On est avec lui, mais on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait pour que enfin tout ça ait un sens? Et ce chapitre 8 commence par un véritable coup de tonnerre, puisque le premier verset, et vous le connaissez, mais je le dis parce qu'il est absolument fondamental. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, c'est dit. Notre passé, il est réglé d'un coup. Dès le moment où nous avons donné notre cœur à Jésus, c'est-à-dire que ça, c'est des mots qu'on a reconnus, notre culpabilité d'homme, notre incapacité à donner du sens à notre existence, notre incapacité à faire s'épanouir la volonté du bien qu'on a en nous, qu'on s'est tourné vers Jésus et qu'on lui a dit « Toi, tu peux prendre tout ce qui est mauvais en moi, toi, tu peux me ressourcer, tu peux me justifier, tu peux enfin me redonner la vie que j'ai perdue depuis si longtemps. » Dès ce moment-là, nous n'avons plus aucune condamnation parce que nous sommes en lui. Et notre passé est réglé. Notre conversion, notre foi, nous place immédiatement dans le camp, pour reprendre mon histoire de vélo, de ceux qui évitent de passer devant les commissaires de course pour vérifier notre matériel, faire les tests de sang, d'urine, voir si on n'a pas triché, etc. Nous sommes définitivement, au pied de notre montagne, des coureurs propres. Nickel. Tout ce qu'on a pu faire auparavant a été enlevé, ôté, oublié. Toutes nos condamnations passées, toute notre petite magouille pour être le premier sur notre vélo, tout ça est oublié. Et ce verset essentiel, il dit ceci. Écoutez bien, ce n'est pas en répondant aux exigences de Dieu que nous pouvons être sauvés, c'est en étant sauvés que nous pourrons répondre aux exigences de Dieu. Là encore, la cause-conséquence est inversée. Ce n'est pas la loi qui provoque la foi, c'est la foi qui donne le sens à la loi. C'est parce que nous sommes sauvés que nous avons en nous la possibilité d'enfin répondre aux exigences de Dieu. Et non pas comme une obligation, non pas comme une peur, non pas comme un coup de bâton, si tu ne le fais pas, tu seras puni, mais comme une évidence, puisque nous sommes avec quelqu'un qui nous sauve et qui nous aime. Évidemment, nous voulons lui plaire, nous voulons aller dans le sens de ce qu'il propose, et à ce moment-là, nous avons les moyens de répondre à ses exigences. Alors, donc je reprends, on est au pied de notre col de première catégorie, on est délesté maintenant de nos bidons de ravitaillement, de nos produits dopants, des règlements de course qui nous contraignaient, mais maintenant que nous sommes un coureur neuf, il faut quand même la gravir, cette montagne, au pied du chapitre 8. Et Dieu, on fait comment à ce moment-là? J'ai tout fait. J'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai cru, je suis rempli de ce bonheur, de cette espérance, mais je fais comment? Par notre foi, nos péchés sont donc pardonnés, envolés, oubliés. Nous sommes légers. Et vous savez qu'en vélo, plus on est léger, plus on grimpe facilement. C'est les petits gabarits qui montent haut. Dieu nous a déclarés justes par le sang de Jésus, versé sur la croix à notre place. Son sang versé devient donc le nôtre. Buvez, ceci est mon sang, vient de le faire. Alors vous savez qu'en vélo, le dopage suprême, celui qui est le plus efficace, c'est de changer son sang. Quand on change le sang, on a de l'oxygène en plus, je ne suis pas biologiste, mais là, pendant quelques heures, on est des cadors et on est très très à l'aise pour faire des exploits sur le vélo. Toutes les histoires de Festina, Viran, que vous souvenez, j'ai été dopé à l'insu de mon plein gré, etc. Les poches de sang qu'on retrouvait dans les poubelles de l'hôtel, des hôtels des coureurs, Armstrong qui a fait ça pendant 8 ans. Ça fonctionne. Quand on change son sang en vélo, on avance. Mais on se fait toujours rattraper par la patrouille. Parce qu'à un moment ou l'autre, au bout de quelques heures, de quelques jours, notre vrai sang revient, chargé de toutes les toxines que l'on fabrique. Et à ce moment-là, le contrôle antidopage passe et on est pris par la patrouille. Alors que Jésus, lui, il nous a fait une transfusion sanguine parfaite, définitive. Le sang qu'il a versé sur la croix, son sang que nous buvons, c'est devenu notre sang à nous. Au contrôle antidopage, son sang purifié devient le nôtre. Oxygénation permanente, globules blancs, champagne renouvelés, prêts pour la grande ascension nous sommes irréprochables et nous sommes renouvelés définitivement par le sang de la croix, par le sang de son sacrifice qu'on a chanté tout à l'heure. En devenant chrétien, nous avons ouvert les portes de notre corps à Dieu. Il coule en nous par son sang qui nous a sauvés. Maintenant, Dieu peut venir faire sa vie en nous. C'est extraordinaire, quand même. C'est ça que raconte le chapitre 8. C'est « Je suis avec Dieu depuis qu'il m'a sauvé. Je suis avec lui, non pas en idée, mais je suis avec lui corporellement, physiquement. Il est rentré en moi. Il fait partie de moi. » Et comment il vient-il en nous concrètement? C'est ce que dit ce chapitre 8. Il vient par son esprit. Ce Saint-Esprit qui nous a été donné à la Pentecôte, qu'on va d'ailleurs fêter la semaine prochaine, c'est amusant que ça tombe à peu près pareil. C'est une arme essentielle, une arme redoutable que nous avons reçue, nous. Quelle chance, parce qu'on a été placés du bon côté de l'histoire, après la Pentecôte. Avant, ce n'était pas possible. Ce chapitre 8, c'est celui de l'Esprit de Dieu. Le mot « esprit » est cité plus de 20 fois dans ce chapitre. C'est unique dans la Bible. Dieu rentre en nous par son esprit. Il a dit « Je pars, mais je vous enverrai mon esprit, le Consolateur. » C'est lui qui vient en nous. Donc nous ne pédalons plus seuls, nous pédalons avec un sacré coéquipier, avec l'Esprit de Dieu. Et toute la démonstration de Paul, depuis le début de l'Épître, trouve là son aboutissement. Nous ne sommes plus seuls. Dieu habite en nous par son esprit. Conséquence, alors au verset 3, on voit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu condamne le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Ça veut dire que Dieu enlève, en venant en nous, Dieu enlève les éléments qui nous contaminent. Et après notre sauvetage, quand on est passé de son côté, qu'il est venu en nous, il va nous apprendre à vivre comme son héritier. Au verset 17, « Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. » Et la conséquence de ça, la première, donc il a enlevé les éléments qui vont nous contaminer, et la deuxième, c'est qu'il va changer nos désirs. Et ça, c'est absolument fondamental. Au verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » S'affectionnent, c'est-à-dire aiment suivre, aiment être avec. L'élément essentiel du chapitre 8, par l'esprit qui vient en nous, et c'est pas une image, c'est une vérité, j'y viendrai plus tard, c'est que Dieu change l'orientation de nos désirs. Il ne s'agit pas de nous décérébrer, de faire que nous ne soyons pas nous-mêmes. Dans le chapitre 7, on voyait que le souci, c'est qu'on succombait à nos désirs, toujours. Nos désirs n'étaient pas les bons, et à chaque fois, c'est eux qui nous refaisaient chuter, qui nous refaisaient tomber, et chacun, s'il s'examine un peu, c'est très bien, chacun dans sa propre mode de fonctionnement, quels sont ses désirs, au sens le plus large du terme, qui le font chuter, qui le retiennent en arrière, qui le font retomber en bas de notre col du Galibier. Le désir, c'est la plus grande force de l'homme. C'est ça qui a fait que l'humanité en est arrivée là, le désir d'apprendre, le désir de construire, le désir de créer, le désir d'inventer, c'est la plus grande force de l'homme. Mais il ne s'agit pas de tuer nos désirs, donc d'être décérébrés, mais de les changer. L'esprit en nous ne vient pas nous faire de nous quelqu'un d'autre. Entre le vieil homme et le nouvel homme, c'est le même homme. Il s'agit juste de prendre nos désirs et de les purifier, de les libérer de tout ce qu'ils ont de mauvais, pour que nous puissions être non plus prisonniers de ces désirs, mais au contraire, participants de ces désirs qui vont nous faire grandir. La loi de l'esprit, c'est dit au verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché. Dans l'épître de Jacques, vous savez qu'il est dit que la loi fondamentale, c'est la loi de la liberté. C'est la liberté que nous apporte l'esprit quand nous l'acceptons en nous, mais il vient tout seul, puisque dès que nous nous ouvrons à Jésus, nous nous convertissons, que nous acceptons qu'il rentre dans nos vies, à ce moment-là, l'esprit vient en nous. Et l'esprit, une fois qu'il est en nous, il nous convainc de nos erreurs, il nous convainc de péchés. Et le ciel, si on peut dire, n'attend que ça, que nous ayons la supplication de changer, que nous demandions « change-moi », parce que l'esprit qui est en nous, il change nos envies, il change nos objectifs, il change notre perception de ce que nous voulons être. Si on est livré à nous-mêmes, nous ne pensons qu'à nous, c'est normal. Instinct de survie, je pense à moi, il faut que je vive, que je mange, que je boive, que je ne sois pas écrasé par l'autre, moi d'abord, c'est tout à fait normal. Mais avec Dieu, depuis notre conversion, nous pensons de moins en moins à nous de cette façon. Et nous pensons de plus en plus à lui. La conversion, ça ressemble au mot « conversation ». Se convertir à Jésus, le rencontrer, ce n'est pas une phrase de religieux, ce n'est pas un truc d'église, c'est une vérité. Si on est tous là, à 15 Pékin, en train de se regarder, de chanter, de partager des choses qui peuvent paraître sinistres, mais dont on sait, nous, à l'intérieur, tout ce qu'elles ont de beau et de grand et de fort, c'est parce que nous parlons avec Dieu. Et ce n'est pas du baratin. Chacun peut le dire en voiture, le soir, en se promenant dans son lit, perpétuellement, nous avons un rapport avec Dieu. Parce que nous avons Dieu en nous avec son esprit. Nous communiquons avec Dieu. Être chrétien, c'est avoir rétabli la communication avec Dieu. Et là encore une fois, ce ne sont pas des mots. C'est vrai. Chacun pourrait donner son témoignage. Alors chacun le fait à sa façon. Certains, ça va être par des chants, d'autres, ça va être par des prières, d'autres, ça va être en se promenant dans la nature. Mais nous avons un dialogue. Nous ne sommes plus seuls à parler avec nous-mêmes. Donc c'est ça qui nous fait devenir fous et qui nous fait avoir ces mauvaises envies. Nous parlons avec quelqu'un qui est parfait, qui est en nous et qui va nous aider et qui nous aide à transformer nos envies, à transformer nos attentes. Au verset 26, il est dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le nombre de fois, je ne sais pas pour vous, moi je pars dans une prière, je demande quelque chose, au bout d'un certain temps, les mots ne me viennent plus, je ne sais plus quoi dire. Et je murmure, je chantonne, je dis, je ne sais même plus. Parce que c'est l'Esprit qui est en moi qui parle. Et à ce moment-là, je me sens en relation, totalement, avec Dieu. Et c'est ce qui fait notre spécificité, ce qui fait que notre foi n'est pas une religion, que notre Église n'est pas un bâtiment, que notre fraternité n'est pas une leçon de morale, que les bonnes actions que nous pouvons commettre ne sont pas des bons points, comme disait je ne sais plus qui, qu'on se donne pour avoir bonne conscience. C'est le fruit de notre conversation intime avec cette personne qui n'est pas n'importe qui est le Dieu qui nous a créés et dont il est dit au verset 15 « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba, Père ». C'est-à-dire que la personne avec qui nous parlons, la personne qui est en nous, la personne qui maintenant partage notre existence, c'est notre Père, au sens le plus large du terme, celui qui donne la vie, qui nous a donné la vie, celui qui nous a créés et qui ne nous déçoit jamais. Nous avons tous eu un père par principe, il y en a certains qui n'ont jamais connu, bon, c'est triste, mais tous ceux qui ont connu un père, à un moment ou l'autre, le père, il dit, ah, celui-là, là, il s'est un peu planté. Alors je ne parle même pas de nous en tant que père avec nos propres enfants. Mais on le sait, c'est la règle du jeu. Mais là, ce père auquel nous nous adressons, de toutes les manières dont j'ai parlé tout à l'heure, celui-là, il est Il ne peut pas nous décevoir, il est absolument parfait. Et c'est cette proximité par la prière, par la lecture de la Bible, la fraternité les uns avec les autres, notre présence ce matin dans cette salle, c'est ça qui nous change peu à peu. C'est ça dont on a besoin. Pour évoluer, je disais, c'est le fait d'être avec Dieu qui fait qu'on évolue dans les étapes de notre construction et pas l'inverse. Le chapitre 8, il raconte ça. Il dit que le Saint-Esprit nous dit tellement de choses de diverses manières et ne serait-ce que par les sentiments que l'on ressent à l'intérieur, on fait des actions. Avant, c'était ni bien ni mal, c'était dans notre intérêt, c'est comme ça. Et maintenant, on se dit, mais c'est pas bien, mais pas au sens moral, dire ça me met mal à l'aise, c'est pas ce qu'il faut, ça pollue mon sang, mais la personne qui est en moi, la sainte personne en moi, l'esprit est en communion avec moi, il dit, il y a un truc qui va pas. Donc petit à petit, nous changeons. Et nous ne changeons pas parce que nous le voulons, parce qu'on est les seuls à pédaler sur notre vélo et qu'on va monter tout seul. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit, qui nous aide, qui est avec nous. C'était la promesse de Jésus, ça a été fait pour que naturellement et évidemment, on change vers ce qui va s'approcher de la perfection de la loi. Du coup, la loi ne devient plus quelque chose, un joug qui nous fait mal et qui nous massacre. C'est, finalement, ça devient une aide, un guide pour que nos sentiments aillent dans la bonne direction, celle que Dieu souhaite. Plus on se rapproche de Dieu, plus on lui ressemble. Et pour se rapprocher, il faut vivre avec lui, vivre avec cet esprit qui est en nous, lui parler. Et lui ressembler, c'est être sous le règne de sa loi, mais la loi de l'esprit, du toi, lui. Cette loi-là, c'est une loi d'attraction vers le haut. Alors que la loi du péché, le moi-je, c'est la loi de la gravitation vers le bas. Notre vélo, au pied de notre montagne, de notre vie quotidienne, avec Jésus, avec l'Esprit qui est en nous, je vous promets que notre vélo, il grimpe vers le sommet. C'est parce que la loi de Jésus, elle nous tire vers le haut. La loi du péché, gravitation universelle, elle nous redescend toujours vers le bas. Et si pendant que je fais mon ascension, je relâche ma relation avec lui, le vélo redescend immédiatement et on se retrouve tout en bas, avec les roues cassées, un peu sanguinolent de partout, il faut remonter sur le vélo et repartir. Paul dit plus tard, n'attristez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire, n'éteignez pas la lumière qui est en vous. Ne fermez pas les écoutilles avec la personne qui est là pour vous aider, pour vous aimer, qui est partie intrinsèque de votre existence. Car si on éteint l'esprit en nous, si on l'attriste, on perd la force. Parce qu'on oublie la relation qu'on a avec lui. Alors, les versets 12-13 que vous lirez disent qu'on a, parce qu'il faut que j'avance vite, qu'on a une dette envers le Saint-Esprit. La première dette, c'est de reconnaître d'abord toute sa gloire. Tu as toute la gloire. Et quand je me plante, c'est moi qui me plante. Et quand je réussis, c'est toi qui réussis. Nous réussissons ensemble. Ne perdons pas de vue que ce qu'attend Dieu, ma dette que j'ai envers lui, c'est moi. Il m'attend, moi. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a l'immense bonheur de sentir cet esprit en nous et qu'on ressent tous, et c'est la première chose qu'on doit dire aux gens qui ne sont pas croyants, dire qu'est-ce que tu crois, on peut les amener à l'église, dire des trucs, mais la première chose c'est dire nous on a une relation individuelle, forte, avec quelqu'un qui m'écoute, qui me répond, qui est en moi, et cette entité c'est Dieu. Alors, ça paraît absurde, c'est en là que les fameuses bonnes œuvres dont parle Paul, la manière... Oui, là, ça va dire quelque chose. Si tu dis ça et que tu passes ton temps à faire n'importe quoi et à donner des coups de poing, à faire des crocs en jambes et des coups tordus, tu vas dire que la personne qui est en toi, elle te donne quand même de drôles de conseils. Mais ça, on ne peut plus le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire tout le temps. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Et si on vient à la dernière partie du chapitre 8, c'est que ce n'est pas pour autant le paradis sur terre et la fête perpétuelle. Puisque nous-mêmes, on se plante encore, on le voit bien dans notre quotidien. Ne plus être condamné, être parmi les enfants de Dieu, partager notre vie avec Dieu grâce à son esprit, ne nous garde pas des soucis, des pleurs, des souffrances et des drames. Et on peut en faire le reproche à Dieu. Mais pourquoi n'agit-il pas autrement? Pourquoi permet-il qu'il y ait tant de choses noires ou sombres? Les athées, ceux qui ne croient pas, ne s'en privent pas. Si ton Dieu existe, t'as vu un peu le capharnaüm qu'il y a dans ce monde et toutes les horreurs? Alors arrête ton cinéma et... Oui, mais la réponse de Paul, elle est très claire, du verset 20 à 23. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc le mal, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et ça, c'est aussi essentiel, parce que là, ici, je vous ai parlé de notre relation avec l'esprit, de ce qui fait notre force de chrétien, et la vérité de notre intimité avec lui. Mais là, il va plus loin. Il dit, ce passage nous aide à comprendre qu'à cause de la révolte originelle de l'homme en Adam, non seulement la relation de l'homme avec Dieu a été abîmée, ce qu'on a vu depuis le début de l'épître aux Romains, mais plus encore, c'est l'ensemble de la création qui en a subi les conséquences. Il faut comprendre que toutes les catastrophes naturelles, tous les drames que l'on voit, sont les conséquences de cet état de révolte de l'homme. Il faut comprendre que dans ce monde en révolte contre Dieu, la frustration, la souffrance est évidente, est obligatoire. La normalité dans ce monde, ce n'est pas que les choses aillent bien. La normalité dans ce monde, c'est que les choses n'aillent pas bien, que tout déraille, que rien ne fonctionne. La paix, le bonheur, la grâce, c'est une exception. Le monde ne peut pas fonctionner comme ça, puisque le monde, dès le début, à l'image de Adam et Ève qui ont refusé la relation avec Dieu, c'est le monde entier qui a refusé cette relation avec Dieu. Et Romains 8, il dit ça. Nous sommes des sauvés dans un monde perdu. À chaque fois, moi, une fois tous les 3 ans, je vous parle du livre de C.S. Lewis, Le silence de la terre. Alors, je m'excuse de le refaire une fois, mais là, il faut le redire. Donc, c'est un grand théologien anglais qui avait cette très belle image. Donc, ce sont des romans de science-fiction, mais qui sont très, très bien faits. La Terre est sous la coupe. Enfin, la Terre est entourée d'une espèce de coque circulaire géante, une sphérique, et qui a fait qu'il n'y a plus de contact avec Dieu. Adam, Ève, tout le mal que les hommes ont fait petit à petit, ont fabriqué cette espèce de coque qui fait qu'on ne peut plus rentrer. L'homme lève, parle à Dieu. Dieu ne répond pas parce qu'il y a une coque géante qui prend tout ça. Et Dieu a vu ça et il a envoyé Jésus en faisant un tout petit trou dans cette coque, parce que c'était très très difficile, parce qu'il y a beaucoup de forces terribles. Et il a envoyé Jésus. Et maintenant, la relation avec Dieu, elle passe par un petit trou. Juste ce petit trou dans la coque que Jésus a fait en vainquant la mort et en ressuscitant. Et nous sommes tous, la seule brin de lumière qu'on voit, c'est ça. C'est ce que Jésus a fait en venant et en ressuscitant. Et nous, notre relation avec Dieu, elle passe par ce petit brin de lumière. Mais tout le reste est dans l'obscurité. Tout le reste est cassé et brisé. Donc que le monde aille mal, que les gens souffrent, qu'il y ait des injustices et des horreurs, mais c'est normal. C'est la logique qui veut ça. Et du coup, les épreuves que l'on reçoit, nous, dont il est parlé au verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans ces toutes choses concourent, il y a même les choses négatives, les choses qui nous font du mal. Parce que Dieu n'est pas maître de ce jeu-là, puisque Dieu nous a fait libres, la terre est libre de faire n'importe quoi, donc il faut accepter d'être dans ce monde de n'importe quoi, et les épreuves qui sont là, elles ne sont pas du fait de Dieu, elles peuvent être de notre fait à nous, mais elles sont du fait de l'ambiance générale de cette terre depuis des millénaires, qui est une ambiance négative, morbide, pleine de mal, et ce qu'on peut se dire pour se consoler, et c'est ce qui est dit là, c'est que ces souffrances qui ne sont pas du fait de Dieu, elles nous permettent aussi de garder le regard vers lui, de garder la relation avec lui. Je l'ai vécu souvent, mais évidemment je ne suis pas le seul. Quand tout va bien, j'ai moins tendance à regarder vers Dieu. C'est quand ça va mal que soudain je vais crier au secours, comme au pied de ma fameuse montagne que je n'arrive pas, que je retombe. Là, je vais crier au secours, je vais crier vers lui. Donc, ces souffrances, ces problèmes, toutes ces choses qui concourent à notre existence, vont concourir à notre bien d'une certaine façon, parce qu'elles vont nous forcer aussi à garder les yeux vers Dieu à travers le petit trou qui reste dans cette terre totalement pourrie. Et du coup, la libération, elle arrive juste après. Une fois qu'on a dit tout ça, on a enfin notre récompense. Les 8 chapitres précédents trouvent les récompenses dans les derniers versets. C'est les versets 31 à 35. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon ce qu'il est écrit, etc. Dieu est avec nous. La libération, c'est que nous arrivons au sommet, parce qu'il est toujours là pour nous défendre, toujours là pour nous aider dans notre ascension. Malgré, vous savez, quand vous faites le tour de France, quand vous voyez, il y a toujours quelques grands fadas, des supporters qui sont là, qui se déguisent en diable. Je ne sais pas si vous avez vu, qui courent. Vous avez vu ça, des gens, il y en a tout le temps. 4 diablotins, les grandes piques qui sont là, vas-y, monte, et qu'il y a des trucs, puis il y en a qui donnent des coups de poing aux coureurs, enfin, d'autres qui sont tellement serrés, ils n'arrivent pas à passer. Tout ça, c'est ce qui nous arrive dans notre quotidien. Les gens qui nous donnent des coups de poing, les petits diables qui nous embêtent, tout. Dans notre ascension, ça n'arrête pas. Mais on est avec lui. Il gagne, il est toujours là, en nous. Il appuie sur les pédales avec nous, et on va y arriver. On va peut-être arriver cabossé, avec des crampes partout, parce que il faut pédaler aussi, mais il est là. Et la récompense, c'est le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons gagné. Et notre récompense, ce n'est pas le bouquet du champion avec la bise de l'hôtesse. Maintenant, il y a des autres aussi, parce qu'il ne faut pas faire de sexisme. La récompense de notre victoire, si on est enfin arrivé au sommet, c'est le verset 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce verset 8, il a commencé par « En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Le passé est balayé. » Et il termine par le verset 39 « Nul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Notre avenir est mis en place. On ne peut plus être séparé de Dieu. » La boucle des 8 chapitres de Romains est enfin bouclée. Et on va même plus loin. C'est le retour du jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. Adam et Ève, il n'y avait pas de condamnation au départ, il y avait la relation parfaite avec Dieu. Tout est remis en route grâce au sacrifice de Jésus et à tout ce qui s'est passé. Il a fallu 8 chapitres. Revenir, vous vous souvenez, on est remonté à Abraham, on est remonté à Adam et Ève, on est remonté au péché originel, on a tout fait Et il avait besoin de ces 8 chapitres. Alors, pardon pour ceux à qui c'était un peu long, mais aujourd'hui, et je me rappelle, Emmanuel, quand il m'a dit, ah, c'est toi qui fais le chapitre 8, t'as de la chance, c'est toi qui as la victoire. Bon, avant, j'avais eu Abraham, c'était pas très bien non plus. Donc oui, c'est moi qui ai tiré le gros lot de vous annoncer avant, je dirais, des choses géniales. On a gagné, on est les vainqueurs, on est au sommet du galibier. Et tous les chapitres qui vont suivre, c'est maintenant qu'on a mis ça en place, comment vivre ensemble dans ce même corps qu'est l'Église. Et dans l'histoire, en juif, non-juif, tout ça. Mais voilà, ça y est. Il a fallu 8 chapitres pour mettre en place ce qu'est notre foi. C'est pour ça que chacun des orateurs est venu, a dit c'est fondamental d'étudier cette épître-là. Parce qu'elle dit exactement tout qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Et que même si on n'est que 12 ou 13, que ça a l'air sinistre, ça ne l'est pas. Parce qu'au fond de nous, on a cet esprit qui, quelles que soient nos chutes sur notre galibier, quelles que soient nos descentes, etc., on sait qu'il pédale avec nous. Il est là. Et tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour lui faire plaisir, on le fait parce qu'il est là et qu'il nous change notre façon d'être. Et on peut tous témoigner qu'il nous l'a changé. On pourrait donner des exemples pendant des heures et des heures. Donc soyons heureux d'avoir souffert avec Romain, parce que si on a compris les 8 premiers chapitres, et j'espère qu'on vous les a fait comprendre, nous trois, avec nos faiblesses et nos inaptitudes parfois, c'est parce que ça dit tout de nous. Ça dit notre raison d'être là ce matin. Et à ceux qui ne sont pas encore comme nous, essayons de leur montrer que ce qu'on raconte est vrai, par notre manière d'être, malgré nos chutes, malgré nos tombées, etc. On parle avec lui. C'est pas du cinéma, c'est vrai. Il est vraiment là. Il est vivant. Il est avec nous.